Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? La lecture de notre texte biblique ce matin va être plus longue que souvent. Je vous demande, je vous avertis à l'avance, soyez attentifs quand je vous dis on va lire la parole de Dieu. Écoutons attentivement. C'est la partie la plus importante du message. C'est d'écouter la parole de Dieu, d'écouter ce qui est écrit dans le texte des Écritures saintes. J'étais dans une autre église récemment et le prêtre, en fait, avant de lire le texte sur lequel il va prêcher, il prend la grosse Bible de l'église et il fait ça. Tout le monde regarde la Bible et c'est le signe pour dire, écoutez, là, je vais lire la parole de Dieu pour aujourd'hui. Je ne ferai pas ça, mais c'est juste pour dire l'importance d'écouter. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Donc, nous faisons une série sur la prière de vision de notre famille d'Église. Et on a dit qu'on aurait une occasion pour quelqu'un ou plus qu'une personne de partager dans vos lectures bibliques. Peut-être que vous suivez le guide qui est venu avec cette série d'études ou de messages. Peut-être que c'est d'autres choses dans la Bible que vous lisez. Est-ce que quelqu'un a un verset à partager, quelque chose qui vous a nourri ou encouragé cette semaine? Vous pouvez profiter de l'occasion. Oui! Philippiens 1:6, hein? Cette transformation promise, ce que Dieu a commencé, il va terminer. C'est bon aussi de regarder en arrière comment qu'on a déjà changé, mais il y a encore beaucoup. Puis, oui, quelqu'un d'autre? OK. Il n'y a pas personne qui est à veille de se lever? C'est correct. C'est bien parce que le verset partagé par... partagé par Pascal, c'est une bonne introduction à ce que je vais dire. Cette semaine, l'accent, c'est un peu comme on a chanté. Allô? Voilà. Mettre Jésus au centre. Et ça, c'est un des textes qui était dans la méditation de cette semaine, Colossiens 1, 9 à 23. La prière, elle... Je vais la lire, vous pouvez prier avec moi silencieusement. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de se multiplier partout. Et la partie de la prière qu'on va parler ce matin, c'est que nous devenions des disciples centrés sur Christ. Amen. Ouais, amen. On va lire le texte de ce matin, mais d'abord, prions. Oui, Seigneur Dieu, ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur pour t'entendre. Et Saint-Esprit, toi qui es envoyé par Jésus, viens dans nos cœurs pour nous montrer la bonne volonté de notre Papa Céleste, de ton Papa, au nom de Christ. Amen. OK, lisons le texte. N'oubliez pas, c'est la partie la plus importante. Alors, le contexte, Paul écrit à des jeunes chrétiens qui viennent de former une nouvelle église. Et il dit, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, donc de votre foi, de votre enthousiasme, depuis le jour que nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Est-ce que tout est correct, Pascal? Oui, on continue. Votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps. Excusez-moi. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. C'est pas fini. Un dernier paragraphe. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. Alors, c'était long, mais il y a beaucoup de bons stocks là-dedans. Et donc, l'aspect que je trouve est important par rapport à mettre Christ au centre, c'est que devenir des disciples centrés sur Jésus nécessite de la persévérance et nécessite de la prière. Donc, je répète, souvenez-vous de ceci, devenir un disciple, une disciple centrée sur Jésus, ça va nécessiter de la persévérance, puis ça va nécessiter de la prière. Ce matin, je veux parler du contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre. Ensuite, tous les bienfaits reçus de Jésus-Christ qu'il mentionne dans cet encouragement qu'on vient de lire. Et troisièmement, comment il amène le thème de la persévérance? Alors, le premier élément que je veux commenter, c'est le contexte de ministère de Paul. Paul et son assistant Timothée écrivent cette lettre. C'est une lettre d'encouragement, donc, à une nouvelle église qui vient d'être fondée il n'y a pas si longtemps. Et Paul et Timothée ne la connaissent pas encore, cette église. Ils n'ont jamais été à Colosse. Colosse est une ville, en fait, pas loin d'Éphèse, mais Paul n'a pas été là. Mais par contre, ils ont un autre associé dans leur équipe missionnaire qui s'appelle Epaphras, pas facile à prononcer. Epaphras, il est dans l'équipe missionnaire. Epaphras vient de Colosse, il est retourné dans sa ville natale et il a évangélisé du monde, puis il y a eu la formation d'une église. Yes! Merci beaucoup, Pascal, de t'occuper de nous. Et une église a été fondée. Donc, très réjouissant pour Paul, puisqu'en plus, lui-même est en prison dans une autre ville. Je ne suis pas sûr si c'est Rome ou Corinthe ou Éphèse ou peut-être ailleurs, mais il est en prison. En fait, les premiers chrétiens, c'est bon de le savoir, les premiers évangélistes étaient vus comme des perturbateurs publics, des dangers pour la société. Ce qu'ils prêchaient n'était pas politique, c'était pas violent, c'était la transformation intérieure, mais ça changeait la vie de personnes, puis ça causait du grabuge dans les familles et dans les villes. C'est comme Jésus a dit, moi je viens annoncer la paix, mais en même temps, j'amène l'épée dans les familles. Quoi? Oui, alors en même temps que Paul annonçait dans toutes ces villes comme la source de paix intérieure pour tout être humain par la croix de Christ, eh bien, il était perçu par les autorités comme une menace publique, même politique. Et il est en prison, mais il entend que même en prison, il y a des chrétiens qui grandissent, il y a des églises qui se créent. Et il est vraiment heureux. Et il écrit pour les encourager, mais il sait aussi, il apprend qu'il y a des faux enseignants dans cette ville de Colosse qui cherchent à éloigner ces nouveaux chrétiens qu'il n'a pas encore rencontrés de leur attachement à Jésus. Les Colossiens, ils sont comme nous. Ils sont comme les chrétiens de tous les âges. Et nous sommes comme eux. On est tiré dans deux directions. D'un côté, on a ce Sauveur merveilleux qui nous a tout donné, tous nos problèmes, nos vrais problèmes, il les a résolus et il nous donne la vie éternelle et on veut juste être avec lui et on est attiré par lui. Mais d'un autre côté, nous sommes faibles, nous sommes instables, nous sommes distrayables. Et les tentations du monde, le découragement, la lassitude et des nouvelles doctrines attirantes peuvent nous éloigner de notre source de salut. Et souvent, c'est subtil. Souvent, c'est comme une nouvelle idéologie qui dit, je ne te dis pas de renoncer à Jésus, mais mélange quelque chose là-dedans pour que ça soit plus agréable, plus stimulant, un peu moins difficile. Je pense, par exemple, je vais le dire, il y a beaucoup de nos chrétiens, de nos frères et sœurs chrétiens qui sont vraiment tentés aux États-Unis et dans d'autres pays à mélanger le patriotisme de leur nation avec l'Évangile. Alors, leur Dieu devient Jésus-Christ plus leur pays et la gloire de leur pays. C'est un exemple de mélange qui peut nous éloigner de Christ. Ça peut arriver au Canada. On n'est pas meilleur que nos frères et sœurs américains, mais on voit que c'est très attirant dans le contexte où ils sont pour beaucoup de chrétiens. Et il y a beaucoup d'autres idéologies qui peuvent nous attirer, nous éloigner de Christ seul, de Jésus le centre. Et il y en avait à Colosse également. Et donc, nous voyons que Paul, depuis sa prison, écrit cette lettre pour encourager les Colossiens à persévérer. Il leur dit, vous avez reçu les plus grandes promesses de Christ. Et il leur dit, souvenez-vous de ces promesses. Gardez vos yeux sur les trésors que vous avez reçus, soit déjà en vous, soit ils vous attendent aux cieux. Gardez les yeux sur les trésors reçus. Persévérez. dans votre attachement à Jésus, c'est nécessaire. Puis c'est la même chose pour toi ce matin. Reste fondé en Jésus. Voilà le texte, peut-être, qui parle plus directement de la persévérance. Il dit au verset 23, « Il faut que vous restiez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. » Amen. Restons fondés. Et donc, on est tiré dans deux directions et, en fait, il y a deux messages ici. Souvenez-vous de la bonté de Dieu qui vous garde sur le fondement, mais souvenez-vous que vous devez persévérer. Vous avez un travail à faire. Il y a un verset qui m'est venu en pensant à ces deux aspects. N'oubliez pas la bonté, puis n'oubliez pas aussi la sévérité de Dieu. Romains 11, 22. Dans sa bonté, il te donne tout pour rester ferme. Dans sa sévérité, il te demande de travailler fort pour vouloir et rendre réelle ta persévérance. Et les deux travaillent ensemble. Vous savez, il y a une doctrine biblique qui est là pour nous aider aussi. Ça s'appelle la doctrine de la persévérance des saints. La doctrine de la persévérance des saints. Et cette doctrine dit ces deux choses que je viens de dire. Premièrement, les vrais saints, les vrais croyants. Alors, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui a été appelé à la foi et qui est né de nouveau. Il n'est pas encore parfait, mais il a été mis à part pour être dans le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle saint ou sainte. Si tu crois en Christ, si tu l'as reçu dans ton cœur, tu es un saint.
Amen.
Amen. Amen. Tu es une sainte.
Oui.
C'est un autre sens que le sens populaire. Mais c'est biblique. Et tout vrai saint, tout vrai croyant doit persévérer jusqu'à la fin. Ça, Jésus le dit. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, ça fait partie de notre appel. Tout vrai croyant doit persévérer, mais la promesse, à cause de la bonté de Dieu, tout vrai croyant va persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Pas par sa propre force, mais c'est Dieu qui promet de le garder. Personne ne le ravira de sa main. Alors, on pourrait en parler longtemps. Peut-être que ça nous fait poser des questions, mais c'est une doctrine qui est là pour nous aider. Donc, c'est une synergie, une coopération entre notre foi en action et la fidélité de Dieu, la doctrine de la persévérance des saints. Donc, c'est le contexte de là où Paul écrit cette lettre qui a tellement eu un impact qu'elle a été gardée jusqu'à nous aujourd'hui. Deuxième aspect du texte que je veux commenter, les bienfaits reçus de Christ. Donc, Paul le rappelle, hein, n'oubliez pas, pendant que ces autres faux enseignants essayent de vous attirer, n'oublie pas ce que tu as déjà reçu. Et d'abord, il leur parle, et surtout, de Christ lui-même. La personne de Jésus, c'est le vrai trésor pour toi. Savais-tu que Jésus t'appartient, dans un certain sens? Tu lui appartiens, et lui, il t'appartient. D'ailleurs, il y a une chanson pour enfants qui dit son nom. Aidez-moi, je suis, il est à moi, je suis à lui et sa bannière. Il est à moi et je suis à lui et sa bannière. L'amour. Oh, merci. Okay. Ah. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Oh yeah! OK! Alors, le focus, le cadeau numéro un, Jésus lui-même. Et Paul insère au milieu tout un En fait, c'était peut-être un cantique que les premiers chrétiens chantaient qui parle de toutes les choses qui sont dans la personne de Jésus. Pas juste un homme. Jésus est Dieu. Paul le dit dans cette partie de Colossiens. Dieu le Fils, devenu homme. Et en devenant un homme, il est devenu visible, il est devenu matériel et il est devenu pour nous tous l'image parfaite de Dieu, hein, au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Et une image beaucoup plus parfaite et équivalente de Dieu que nous le sommes. Nous, nous sommes des images endommagées de Dieu et plus partielles. Nous sommes aussi des images de Dieu. Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Et avant de devenir homme, nous dit ce petit cantique au milieu de ce qu'on a lu, avant de devenir homme, ce Fils a participé à la création de l'univers. Il était avec le Père et tout a été créé en lui, avec lui, par lui. Et le texte dit aussi quelque chose qui peut être mal interprété. Il est le premier-né de toute la création. Il n'est pas le premier créé. Donc, Jésus n'a jamais été créé. Il a tout le temps existé. Alors, la doctrine de la Trinité dit il est éternellement engendré du Père. Yeah! Ça veut dire il a toujours été le Fils du Père. Il a toujours, depuis l'éternité, été en train de sortir du Père. Demandez-moi pas de vous expliquer ça en détail, c'est un mystère, mais le premier-né de la création, il est comme le fils aîné qui, au moment de la création de l'univers, et là-dedans, il y avait le plan pour te créer toi, Jésus participait. Et la Bible dit même que le texte dit que tout subsiste en lui. Ça veut dire que depuis le début de la création, Jésus, il est partout dans l'univers. Lui, Dieu le Fils, il est en train de faire subsister l'existence des êtres humains, des animaux, même des galaxies. Il me semble, tantôt, on a chanté, toutou, quelque chose à propos des galaxies, non? Que Jésus est le centre et... Ça se rapproche de l'idée que tout l'univers subsiste en lui. Il est vraiment grand, ce Jésus qui habite dans nos cœurs, n'est-ce pas? Oublions pas ça, Paul est en train de nous dire. Et il est non seulement le Créateur, mais le recréateur. Celui qui nous a créés, qui nous a vus chuter, est venu pour nous sauver par le sang de sa croix, en devenant homme, en mourant à notre place. Le Père a voulu tout réconcilier avec lui-même par le Fils à travers le sang de sa croix. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que vous ne voulez pas faire de ce message l'histoire de votre vie? J'espère que oui, et le partager avec vos amis. Oh, yeah! Oui, nous avons un Sauveur qui n'est pas une créature comme nous, mais il est notre Créateur. Il est venu nous prouver son amour. Alors, Jésus lui-même, c'est le plus important. Mais après ça, il y a tous les bienfaits. Là, j'ai trouvé une image d'une personne qui reçoit une douche de bienfaits. On reçoit les bienfaits de Jésus. Et il y en a beaucoup qui sont mentionnés ici. Verset 19. « Toute plénitude habite en lui et vous recevez toute plénitude de lui. » Alors, c'est quoi la plénitude? Ça veut dire quoi, la plénitude? Es-tu quelqu'un en bas de 25 ans qui pourrait nous dire, ça évoque quoi pour toi, plénitude? Gad, es-tu là? Je pense que je t'ai vu quelque part. Ça veut dire quoi, le mot plénitude? Plein, oui! Oui, c'est comme qu'il est tellement plein que ça déborde. Alors, et Jésus a dit, vous allez recevoir l'Esprit-Saint, puis c'est Jésus qui l'envoie, dans vos cœurs, puis ça va être comme une source qui n'arrête pas de déborder, une source d'eau qui donne la vie puis qui n'arrête pas de déborder. Tu vas recevoir ça en Jésus, tu l'as déjà reçu. Tu vas recevoir la plénitude, ça va impliquer de la joie, de l'énergie spirituelle, de l'encouragement quand ça va mal, de la sagesse quand tu ne sais pas quoi faire et tout le temps la certitude d'être aimé, aimé par Dieu, sauvé par lui. On a la rédemption aussi par Jésus, la paix avec Dieu, avec nous-mêmes. C'est la base aussi de recouvrer cette santé émotionnelle quand on a souffert des blessures. Et il y en a parmi nous qui ont souffert des grosses blessures récemment ou dans leur enfance, des blessures émotionnelles. Mais de savoir que Dieu nous aime et que, en ce qui concerne mes fautes à moi, Jésus les a pardonnées. Et je peux dire aussi tout ce mélange quand d'autres m'ont fait du mal et qui m'ont culpabilisé pour le mal qu'ils m'ont fait, eh bien, Jésus est là, lui qui a souffert injustement aussi, Jésus est là pour m'aider à démêler ça. Je suis aimé. Je suis aimé de Dieu. J'ai la paix avec Dieu et avec moi-même, avec ma propre conscience et avec le monde dans lequel je vis. Paul parle du monde hostile dans lequel les Colossiens vivaient avant, un monde de ténèbres. Et on faisait partie des ténèbres avant, mais maintenant, avec la lumière de Christ en moi et en toi, même si le monde continue à être ténébreux, mais nous, on amène de la lumière là où on va, puis c'est joyeux pour nous aussi. On commence à avoir un sens dans notre vie, et ça, c'est super. Et puis, il y a la promesse qui est au verset 22. Dieu va nous faire paraître devant Christ, saint, sans défaut et sans reproche. C'est la même chose que Paul dit en Philippiens 1:6 que Pascal nous a rappelé, qu'on est en train d'être transformé. Qui ici a terminé sa transformation? Es-tu quelqu'un qui s'est fait? David?
Étape 1.
Ah, étape 1, OK. OK, d'accord, j'accepte. OK. Je vois quand même de la transformation dans mon cœur depuis que je suis chrétien. Est-ce qu'il y en a qui... Ça, c'est encourageant. S'il n'y avait aucune main, je serais vraiment triste. Mais moi aussi, je lève la main. Oui. Et, wow, oui. Et c'est pas fini, comme a dit Pascal. Dieu est en train de nous transformer. Mais il faut garder Christ au centre. Et il faut persévérer jusqu'à la fin. Et puis, ce qui n'est pas fini dans la transformation, on va être changé dans un clin d'œil par la puissance de la résurrection de Christ au moment où on va le voir face à face. C'est ce que Paul nous dit aussi. Donc, si moi, je meurs dans un accident d'auto en rentrant chez nous après la célébration, je peux vous garantir que la transformation ne sera pas terminée. Mais je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, là. Mais j'ai confiance que ce qui n'est pas terminé, Jésus va l'accomplir par son regard et par la puissance de sa résurrection au moment où je passerai devant lui, devant son tribunal, et il va me dire, entre dans la joie de ton maître, mon fils bien-aimé. Amen!
Amen.
Ma fille bien-aimée, entre dans la joie de ton maître. Restons comme ancrés dans Jésus-Christ. Et on est faible, mais lui, il est fort. J'aimerais parler maintenant de la persévérance, parce que Paul utilise le mot deux fois dans ce texte. Et c'est vraiment intéressant. Au début, vous avez vu, et commence sa lettre, parce que c'est vers le début, il dit, « Moi, quand j'ai entendu parler de votre nouvelle église, de votre foi enthousiaste, de votre amour pour tous les chrétiens, eh bien, je me suis mis à prier pour vous. Et voici comment il leur dit, c'est quoi sa requête? Bien, il dit « nous » parce qu'il est avec Timothée. Et il dit « nous demandons », on va relire, « nous demandons pas tout le texte, juste ce qui est à l'écran ici. « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Wow! Et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Wow! Deux fois le mot « connaissance de Dieu ». Wow! Et vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Wow! Pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Donc, ça, c'est la prière. Paul dit, voici ce que je prie pour vous. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été frappé par quelque chose. Y a-t-il un détail qui te frappe dans cette prière de Paul pour ces nouveaux chrétiens-là? Pardon? Oui, vous progresserez. Oui, vous progresserez. Effectivement, c'est quelque chose de futur, de présent et du futur.
Fortifié.
Encore?
Fortifié.
Fortifié, être fortifié. Oui. Alors, c'est merveilleux que Paul aurait pu prier. Je sais qu'il y a des problèmes. Et je vous promets, je suis en train de prier pour votre persévérance, que vous ne viviez pas l'échec de votre foi. Il aurait pu dire ça, mais ce n'est pas ça qu'il prie. Il prie quelque chose de beaucoup plus optimiste et avec une haute vision de ce que Dieu est en train de faire. Et je pense que c'est un beau modèle. Nous qui avons besoin de persévérance, un beau modèle de comment prier les uns pour les autres avec optimisme, avec vraiment une haute vision positive de ce que Dieu est déjà en train de faire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est vrai, c'est pas une joke, mais en même temps, je comprends la personne. Il dit, moi, il y a une personne dans l'église qui me tape sur les nerfs. Non, c'est. Alors, essayez pas de deviner si c'est vous. Il dit, est-ce que je peux prier que dimanche prochain, qu'elle ne soit pas là? Alors, je ne savais pas trop quoi répondre, mais ce que je dis que c'est une basse vision, en tout cas, de ce que Dieu est en train de faire. Mettons la barre plus haute, frères et sœurs, que n'importe qui d'entre nous, il y a des gens qu'on a plus de facilité que d'autres, mais ça, là, Dieu est en train de faire dans la vie de chacun qui a Christ en lui. Dieu est en train de se révéler à la personne, sa volonté, sa personne. Oh Seigneur, remplis cette personne de la connaissance de qui tu es et de ta volonté. N'importe qui peut progresser dans cette connaissance-là parce que l'Esprit-Saint est en eux. Tantôt, on a chanté « Saint-Esprit, viens ». Il y avait deux chants. Saint-Esprit vient et souffle. Et c'est comme, ça me donnait l'idée de quelque chose de fracassant. Mais le Saint-Esprit vient la plupart du temps dans cette chose subtile-là. Hein? Hey, je vois ma sœur Laurelie là-bas. Seigneur, que dans le secret de son cœur lundi matin, que tu viennes, Esprit-Saint, pour la remplir de la connaissance de sa volonté, pour sa journée de travail. C'est doux, c'est subtil, mais c'est ça le vent de l'esprit aussi. C'est aussi quand il descend sur nous avec puissance, quand on le loue le dimanche. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ce que Paul prie ici? Et vous savez, nous avons besoin de prier les uns pour les autres et pour nous-mêmes. Oui. Moi, j'ai, depuis un certain nombre d'années, je mets à part un moment chaque semaine pour prier juste pour vous autres. Et ce que je fais, et peut-être que je suis en train de me vanter, mais d'un autre côté, je sais que je ne prie pas assez pour vous en tant que pasteur, mais au moins, je fais quelque chose. Et ce n'est pas juste durant ce moment. Mais voyez-vous, cette prière-là, je me dis, quel bel outil pour moi de prendre ça, Colossiens 1, 9 à 11, et d'insérer ton nom dedans. Parce qu'en fait, ce que je fais, je prends la liste des anniversaires et puis je prie pour les noms qui sont là. Mais voyez-vous, ça, c'est une prière que tu peux utiliser toi aussi pour prier pour une sœur, pour un frère. Et ce n'est pas juste le pasteur ou les pasteurs qui prient pour les autres chrétiens. On doit prier les uns pour les autres. Et j'aimerais mentionner aussi le besoin de prier pour ceux qui se sont éloignés. Parce que Paul sait, il sait qu'il y a des Colossiens qui vont s'éloigner, même s'il prie qu'aucun d'eux ne s'éloigne. Et nous ne devons pas abandonner dans nos prières ceux qui ont commencé à s'éloigner ou ceux qui se sont beaucoup éloignés. Mais nous devons aussi prier pour eux. En quelque part, c'est la même prière. Dieu, révèle-toi dans leur cœur. Une nouvelle étincelle de la compréhension de ta volonté et qu'ils reviennent vers le fondement et vers la persévérance. Hein? Pour nous rappeler qu'on n'oublie pas tous ceux qui ne sont plus avec nous pour différentes raisons. Jacques, c'est un autre donc, livre du Nouveau Testament, Jacques finit sa lettre aux chrétiens en disant « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, puis tu peux peut-être penser à quelqu'un que tu gardes dans ton cœur. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, wow, on peut ramener quelqu'un. On peut ramener quelqu'un. Mais c'est Dieu qui peut le faire par nous et par nos prières. Eh bien, sachez qu'il sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Donc, prions aussi pour cette personne qui s'est éloignée. Et quand c'est possible, montre-lui un geste d'amour. Alors, j'arrive dans la section finale ici. La leçon d'aujourd'hui, devenir un disciple centré sur Jésus nécessite pour toi de la persévérance et de la prière. Il faut que du monde prie pour toi. Il faut que toi aussi, tu pries pour toi-même et pour d'autres. Ça marche par la prière. On a vu dans le texte qu'on a été invité à nous souvenir de notre fragilité, mais de la grandeur de Dieu et de ses promesses pour nous, surtout en Jésus-Christ, et de la puissance de la prière. Puis, je veux vous raconter une histoire pour terminer. Puis c'est vraiment la fin. C'est mon histoire reliée à la fête des mères. Ouais. Je vais vous parler de Monique, que certains appellent Sainte Monique. C'est l'histoire de sa persévérance dans la foi et dans la prière. C'est une maman chrétienne très célèbre, Sainte Monique. Elle a vécu au 4e siècle après Jésus-Christ. C'est la mère de quelqu'un qui nous a tous influencés, Saint Augustin, qui a été un père de l'Église, est devenu un pasteur, un théologien. Il a eu beaucoup d'influence sur la formation du monde occidental dans lequel nous vivons. Et c'était un penseur chrétien. Mais, en fait, on doit beaucoup à sa maman, Monique. Monique avait élevé le petit Augustin dans la foi chrétienne. Et c'était la foi catholique. C'était une région du monde et une époque où les catholiques étaient dominants. C'était encore dans l'Empire romain. Et durant sa jeunesse et surtout ses études, Augustin s'est complètement éloigné de la foi. Mais il disait, depuis que je suis petit, j'étais dans l'église de ma mère. Son père n'était pas chrétien. Sa mère était chrétienne et il disait, « Je buvais le nom de Jésus-Christ avec le lait de ma mère. » C'est pour dire qu'elle l'amenait à l'église quand il était bébé. Donc, bravo à toutes les mamans. Et bien, malheureusement, durant ses études, il a été attiré vers d'autres choses, dont une secte qui s'appelle les Manichéens. Et c'était une secte opposée à la foi chrétienne. Même s'ils parlaient de Jésus, mais ils étaient contre la foi chrétienne des églises qui restaient avec la Bible. Et Monique était bouleversée. Elle priait pour son fils. Elle était célèbre pour ses larmes. Elle n'était pas parfaite non plus. Mais elle priait dans la persévérance. Et pendant des années, et Dieu a répondu aux prières de Monique. Et Augustin était vers la fin de sa trentaine quand finalement, il a re-rencontré le Seigneur ou rencontré le Seigneur. Il s'est repenti. Il est revenu à la foi. C'est une belle histoire. Et Augustin la raconte dans son livre « Les Confessions ». C'est son autobiographie. Tout chrétien devrait le lire. Et c'est vraiment un classique de la foi chrétienne, « Les Confessions d'Augustin ». Et Augustin, dans son autobiographie, raconte une confrontation qu'il a eue avec sa maman, Monique, durant sa période de rébellion. Alors, je vous lis un peu. Monique avait fait un rêve qu'elle décide alors de raconter à son fils. Et dans ce rêve, Monique, elle s'est vue elle-même debout sur une règle de bois, hein, une règle pour mesurer, une règle de bois. Elle est debout dessus. Un jeune homme vient à elle, resplendissant, heureux, lui souriant, alors qu'elle était triste d'une tristesse qui l'accablait. Et le jeune homme lui demanda, « Pourquoi cette tristesse et toutes ces larmes qu'elle verse chaque jour? » Monique lui répond qu'elle se lamentait sur la perdition de son fils. Alors, pour la tranquilliser, le jeune homme, dans le rêve, okay, le jeune homme lui demande de mieux regarder, car elle verrait que là où elle était debout sur une règle de bois, là où elle était, son fils était aussi. Et là, Monique se rend compte que son fils Augustin est debout à côté d'elle sur la règle de bois. C'est ça le rêve. Et à son réveil, Monique, qui avait de l'audace, elle raconte le rêve à son fils en rébellion. Et il lui donne son interprétation à elle du rêve. Elle lui a dit, la règle de bois symbolise la foi catholique dans sa rectitude. Et le jeune homme qui est venu à elle dans le rêve, c'est Jésus-Christ. Et qui lui a annoncé, selon son interprétation, que son fils va revenir à la foi de sa mère, et la foi chrétienne. Et Augustin, qui était très sûr de lui, c'était lui celui qui allait à l'université, sa mère était une personne simple, et il lui dit, « Mais maman, c'est toi qui vas venir sur la vraie règle de ma secte manichéenne. » C'est ça que ça veut dire, le rêve. Et Monique a osé lui tenir tête et elle rétorque, « Non, Jésus n'a pas dit où il est, tu vas aller, mais où tu es, il va venir. Où tu es, il est, pour être plus littéral. Amen. » Donc, elle a tenu ferme et ça a beaucoup contrarié Augustin au moment même. Mais la confrontation est parfois le coût que paye une maman croyante qui prie avec persévérance en restant fondée sur la règle qui est Christ. Et Augustin va écrire plus tard que Dieu a utilisé les prières de sa mère pour le ramener sur la bonne règle. Amen.
Amen.
Donc, soyons des Monique. Et merci à toutes les mamans qui prient pour leurs enfants. Et prions tous pour ceux qui se sont éloignés afin qu'ils reviennent à Christ. Je vous invite à prier avec moi. Oh oui, Père, merci pour Christ. Christ qui est le centre. Merci qu'on peut continuer à le chanter maintenant. Mais surtout, que cette prière pour chacune et pour chacun soit notre réalité d'aujourd'hui et de demain matin. Dans ta grâce, dans ta miséricorde, donne-nous une idée de c'est quoi aller plus loin dans ce que toi tu veux dans notre journée, dans notre semaine, avec les problèmes et les défis qui nous paraissent insolubles. Mais toi, tu as déjà la solution. Oh, qu'on puisse avoir ces révélations-là, agir et porter du fruit, grandir dans notre attachement à ce Jésus que tu nous as donné. Nous prions en son nom. Amen.